Chapitre 19.
Putain, mais laissez-moi entrer, merde !
Il était 9h30, il pleuvait des cordes et Laura, essoufflée, avait à peine conscience du flot des employés de bureau sous leur parapluie qui s'écartaient pour contourner la cinglée qui donnait de grands coups de sac à dos sur la porte de la laverie.
« Je suis pas là pour le boulot !»
hurlait-elle.
« Je m'en contrefous de ton boulot de merde! Je veux juste parler à Tania! Maya, putain! Laisse-moi entrer !»
De l'autre côté de la porte vitrée, Maya se tenait debout, bras croisés, impassible. « Laura, il faut que tu te calmes. Je vais te laisser 30 secondes pour te calmer et partir. Après ça, j'appelle la police. C'est compris ?»
Laura s'accroupit et se mordit la lèvre. Une vague d'adrénaline déferla sur elle, et elle sentit la nausée monter, sa bouche se remplir de salive, son cœur s'affoler jusqu'à presque exploser. Elle ramassa une bouteille de bière vide dans le caniveau et s'apprêtait à la lancer contre la vitrine lorsqu'une main lui attrapa le poignet et lui ramena brutalement le bras dans le dos. La douleur à l'épaule lui fit pousser un cri et elle lâcha la bouteille, tandis que la main libérait déjà son poignet.
« Mais qu'est-ce qui vous prend, enfin ?» demanda une voix de femme.
Laura se retourna en se massant l'épaule droite pour découvrir qu'elle venait de se faire alpaguer par le Hobbit. C'est comme ça qu'il l'appelait, à la laverie, parce qu'elle était petite et poilue et qu'elle avait l'air de sortir tout droit d'un terrier, alors qu'en fait, elle vivait sur un bateau, ce qui en soi restait quand même plutôt insolite.
« Alors ?» insista la femme en fronçant les sourcils, visiblement plus étonnée que fâchée. Un peu comme quand son père était en colère contre elle, mais qu'il lui disait
« Je ne suis pas fâchée, mon poussin, je suis simplement déçue. »«
Elle veut pas me laisser entrer !»
répondit Laura, dont la rage s'était évaporée aussi rapidement qu'elle l'avait envahie.
« Elle veut pas me laisser entrer, alors que j'étais pas venue pour faire des histoires. Je voulais juste parler d'un truc à Tania. Ça n'a même pas de rapport avec la boutique ou avec... »
Laura s'interrompit. « À quoi bon ? Ça ne servait à rien. » Elle s'assit sur le bord du trottoir, les genoux remontés jusqu'au menton.
« J'étais pas venue pour faire des histoires, » répéta-t-elle.
Le Hobbit s'appuya lourdement sur l'épaule de Laura pour prendre place à côté d'elle.
« Vous savez, quand on ne veut pas faire d'histoire, on évite de lancer des bouteilles contre les vitrines des magasins. »
Laura se tourna vers le Hobbit et le Hobbit lui sourit, révélant deux rangées de dents jaunes et mal alignées.
« Je ne me souviens plus de votre nom, » dit Laura.
« Myriam, » répondit la femme avant de tapoter le genou de Laura. « J'en déduis donc que vous ne travaillez plus ici. Je me disais bien que ça faisait quelque temps que je ne vous voyais plus. »
« Je me suis fait virer. J'ai loupé 2 jours d'affilée et comme c'était pas la première fois... En plus, j'ai pas pu prévenir Maya. Du coup, elle a raté l'anniversaire de son petit-fils. Franchement, ça craint. Mais le pire, c'est que je comptais pas rater le boulot. Je voulais pas que ça se passe comme ça. C'est pas ma faute. »
Myriam lui tapota de nouveau le genou. « Je suis désolée. C'est horrible de perdre son travail. Je sais ce que c'est.
Est-ce que ça vous dirait qu'on aille boire un thé quelque part ?
Je voudrais vous aider. »
Laura s'écarta légèrement.
« Moi aussi, il m'est arrivé une fois ou deux de devoir compter sur la gentillesse de parfaits inconnus. » poursuivit Myriam. « Je sais que ça peut paraître déroutant, de prime abord. »
Laura acquiesça.
« Mais je pense que vous allez vite vous rendre compte que nous ne sommes pas si différentes, vous et moi. »
reprit Myriam avec un sourire bienveillant.
« Tu parles qu'on n'est pas différentes ?»
songea Laura. Mais elle se retint de le dire, parce qu'elle voyait bien que cette femme avait l'air sincère.
Et donc, 4 ans après mon accident, ma mère s'est mariée avec le type qui m'avait renversée.
Laura marqua une pause, le temps de verser du lait dans le thé qu'elle venait de préparer et de tendre la tasse la moins abîmée à Myriam.
Ça vous fout en l'air ce genre de truc, je vous assure. Physiquement, c'est clair que quand vous vous faites taper par une voiture, vous en ressortez avec tout un tas de douleurs et de cicatrices.
Elle indiqua sa jambe gauche boiteuse.
Mais c'est le reste, le pire. Le côté émotionnel. Le côté mental.
Myriam but une gorgée de thé et acquiesça.
Là-dessus, nous sommes parfaitement d'accord.
Du coup, maintenant, dit Laura en se laissant tomber sur une chaise, je fais des conneries. Des grosses conneries. Comme ce matin, par exemple. Ou comme... Et j'en ai pas envie, enfin, des fois, si, j'en ai envie. Mais c'est comme si un mécanisme se mettait en mouvement et que je pouvais pas l'arrêter. Je peux que réagir, essayer de limiter les dégâts sur moi-même, et le résultat, c'est que des fois, c'est les autres qui trinquent. Mais je fais pas exprès, en tout cas. Le Hobbit acquiesça de nouveau. Les gens ricanent, vous savez, quand je leur dis que c'est pas ma faute. Les gens comme ma belle-mère, mes profs, la police, Maya. Ils me répondent toujours « Et quoi, c'est de la mienne peut-être ?»
Janine, la mère de Laura, se tenait dans l'allée devant la maison et observait les mangeoires vides accrochées aux pommiers. Elle n'était pas sûre qu'il lui reste encore des graines, mais elle ne comptait pas aller en acheter tout de suite. Il neigeait depuis un bon moment et la circulation s'annonçait infernale. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et savoura la bouffée d'air froid dans ses poumons, ainsi que la parfaite quiétude qui régnait autour d'elle. C'est alors qu'un long crissement de pneus vint briser cette sérénité. Puis, après ce qui lui parut durer une éternité, un craquement horrible. L'allée faisait 200 mètres de long et était bordée d'arbres, avec une haie au fond qui marquait la limite de la propriété, de sorte que Janine ne pouvait pas voir ce qui s'était passé sur la route. Mais elle savait. Plus tard, elle expliquerait aux policiers avoir tout de suite compris que quelque chose d'affreux s'était passé. La voiture avait disparu. Laura était étendue au milieu de la chaussée, les jambes tordues selon un angle qui n'avait rien de naturel. Janine tomba à genoux et vit le petit filet de sang qui s'échappait dessous le casque de sa fille et qui se répandait lentement sur le bitume lisse et humide. Elle plongea aussitôt la main dans sa poche à la recherche de son téléphone, mais il n'y était pas. Alors elle se mit à hurler et à hurler, mais personne ne vint, parce que la maison la plus proche se trouvait à 800 mètres de là. Lorsque les policiers voulurent savoir ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait entendu, si elle était sûre de ne pas avoir aperçu la voiture, au moins la couleur peut-être, Janine secoua la tête. « C'est ma faute !» répétait-elle. « Tout est ma faute !» « Bien sûr que non, Madame Kilbride !» lui répondit une des agentes de police en lui enserrant les épaules de son bras. « C'est uniquement la faute du chauffard qui a percuté Laura, mais je vous promets que nous allons le retrouver et qu'il va payer pour ce qu'il a fait. Ou pour ce qu'elle a fait, d'ailleurs, si c'est une femme. » Janine se dégagea et posa sur la policière un regard empli de terreur. Comme l'avait annoncé la jante, le chauffard finit par être retrouvé. Une caméra de surveillance située 500 mètres plus loin avait filmé deux voitures quelques minutes après l'accident. La première se révéla appartenir à une vieille dame et fut retrouvée en parfait état. La seconde était celle d'un certain Richard Blake, un antiquaire qui habitait Petworth, à quelques kilomètres de là, et qui expliqua aux policiers qui se présentèrent sur son lieu de travail que son véhicule avait été volé la veille au soir, mais qu'il n'avait pas encore eu le temps de porter plainte. Lorsque les agents repartirent, Richard leur demanda d'une voix étranglée « Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» À quoi l'agente répondit « Qui ça ? Mais la petite fille, enfin !»« J'ai parlé d'un enfant, monsieur Blake. Je n'ai pas précisé qu'il s'agissait d'une fille. » Le moins qu'on puisse dire, c'est que Richard Blake n'avait pas l'âme d'un criminel. Voilà comment ça s'était passé. Voilà ce que croyait Laura. C'était ce qu'on lui avait dit, alors elle n'avait pas de raison d'avoir des doutes. Elle n'avait que 10 ans, après tout. Dans un premier temps, bien sûr, elle ne crut rien du tout parce qu'elle n'était pas consciente. 12 jours dans le coma. Puis, quand elle se réveilla enfin, son monde avait changé. Son corps était brisé de partout, le bassin, le fémur, le crâne. Plus exactement, son monde avait été réinitialisé. Remis à zéro, mode usine. Elle dut réapprendre à parler, à lire, à marcher, à compter jusqu'à 10. Elle n'avait aucun souvenir de l'accident, ni des mois qui l'avaient précédé. La nouvelle école, la nouvelle maison, son nouveau vélo. Tout avait disparu. Elle se rappelait vaguement leur ancienne maison de Londres et le chat de la voisine. Après ça, c'était le flou complet. Petit à petit, cependant, les choses commencèrent à lui revenir. Quelques semaines avant de quitter l'hôpital, elle dit à son père « Notre maison, elle est en bas d'une colline, c'est bien ça ?»« Mais oui, c'est ça. Bravo, mon poussin. Est-ce que tu te rappelles autre chose ?»«
Pavillon, » répondit-elle,
et il acquiesça.
« La voiture, elle est verte. »
Son père secoua la tête avec un sourire triste. « Je suis désolée, mon poussin, mais elle est rouge. C'est une Volvo rouge. »
Non, pas notre voiture. La voiture qui m'a renversée, elle était verte. Elle venait de notre allée, de notre maison.
Le sourire de son père s'effaça.
Tu ne te souviens pas de l'accident, mon poussin. C'est impossible.
Quelques jours plus tard, alors que sa mère était venue la voir à l'hôpital, ses parents ne venaient jamais ensemble, ce qu'elle trouvait étrange. Laura lui demanda des précisions sur la fameuse voiture.
Elle était verte, non ? Je suis certaine qu'elle était verte.
Sa mère s'empressa de mettre de l'ordre dans les cartes de prompt rétablissement.
Je ne sais pas, Laura. Je ne l'ai pas vue, tu sais.
Menteuse.
Janine, la mère de Laura, se tenait dans l'allée devant la maison. Elle avait des bottes Hugues aux pieds et elle tremblait dans son peignoir en soie vert chartreuse. C'était juste après l'amour. Sa peau était encore toute rouge. Quelques instants plus tôt, alors qu'ils étaient tout enchevêtrés et qu'ils avaient perdu la notion du temps, elle avait regardé la montre de son mari sur la table de chevet et s'était exclamée
« Merde, Laura ne va pas tarder à rentrer !»
Richard s'était habillé en hâte, il avait failli tomber à la renverse en enfilant son pantalon et tous les deux s'étaient esclaffés avant de convenir d'un prochain rendez-vous. Elle l'avait raccompagné à sa voiture, l'avait embrassé, il lui avait dit qu'il l'aimait. Debout dans l'allée, la tête penchée en arrière, elle regardait la neige tomber, la bouche ouverte pour attraper les flocons avec sa langue. Dans sa tête, les mots de Richard résonnaient encore lorsqu'elle entendit le bruit. Elle comprit tout de suite qu'il était arrivé quelque chose d'horrible à Richard. Elle courut jusqu'à la route. La première chose qu'elle vit fut la voiture, la Mercedes vert foncé garée à un angle étrange au milieu de la chaussée. Et derrière, Richard accroupi, le dos tourné, les épaules secouées de spasmes. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, elle vit qu'il pleurait et que ses larmes gouttaient sur le corps brisé de sa fille.
« Oh mon Dieu, non, 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 non !»
gémissait-il.
Elle était au milieu de la route, Janine. Elle était au milieu de la route. Oh mon Dieu, non !
Janine l'attrapa par le bras et l'aida à se redresser.
« Il faut que tu partes d'ici !»
lui dit-elle d'un ton très détaché qui la surprit elle-même. « Monte dans ta voiture et pars d'ici tout de suite. File, Richard, je vais m'occuper d'elle. Allez, va-t'en !»
Elle saigne, Janine. C'est grave. Oh mon Dieu, c'est grave !«
Il faut que tu partes d'ici !» répéta-t-elle. Et comme il ne bougeait pas, elle se mit à hurler.
« Maintenant, Richard, pars ! Tu n'es jamais venu ici, d'accord ? Tu n'étais pas là !»
Menteuse, menteuse.
Cette version des faits ne tarderait pas à ressortir. Tout le monde avait avisé Laura, tout le monde étant ses parents, son médecin et son thérapeute, de ne pas chercher sur Internet des informations sur l'accident. Ça n'aiderait à rien. Ça ne ferait que la perturber, l'effrayer, lui donner des cauchemars. Laura, qui venait de fêter son 11e anniversaire, mais qui n'était pas pour autant née de la dernière pluie, comprit tout de suite que cet avertissement était aussi étrange que suspect. Et elle avait raison. La première chose qu'elle trouva lorsqu'elle tapa son nom sur Google fut un article de presse intitulé « Un homme incarcéré après un délit de fuite », sur lequel figurait une horrible photo d'elle qui faisait la grimace dans son uniforme. Elle se mit à lire. Hier, la justice a condamné Richard Blake, antiquaire de son état, à 4 mois de prison ferme pour avoir laissé pour morte Laura Kilbride, une jeune écolière de 11 ans qu'il avait renversée en voiture.
Laura relut la phrase. Richard ? Non, c'était impossible. Elle connaissait Richard. C'était le monsieur qui donnait des cours de dessin à sa mère. Richard était attentionné. Il avait un visage chaleureux, il riait tout le temps. Laura aimait bien Richard. Il était gentil avec elle. Une fois, ils avaient joué ensemble au football sur le parking du supermarché en attendant que sa mère termine de faire les courses. Richard n'aurait jamais fait une chose pareille. Il ne serait jamais parti sans appeler une ambulance. Cette première révélation fut vite oubliée, cependant, supplantée par le choc qui l'attendait au paragraphe suivant. Il semblerait que M. Blake, 45 ans, qui a plaidé coupable pour délit de fuite et non-assistance à personne en danger, entretenait une liaison avec Janine Kilbride, la mère de la jeune victime. Madame Kilbride, 43 ans, qui est arrivée sur place peu après l'accident et qui a immédiatement appelé les secours, a été condamnée à une amende de 800 livres pour avoir menti à la police en affirmant n'avoir pas vu le véhicule qui avait renversé sa fille. Lorsque Laura repensait à cette période de sa vie, elle voyait la lecture de cet article de journal comme l'événement qui avait marqué le début de la fin. Son corps était déjà meurtri, bien sûr, ses fonctions cérébrales déjà affectées, mais un rétablissement complet restait possible. Alors que là, savoir que ses parents et tous les gens censés s'occuper d'elle lui avaient menti, c'était le genre de choc dont on ne se relevait pas. Elle avait découvert la vérité et la trahison qui allait avec, et cela l'avait changée à jamais. Désormais, elle était brisée. Désormais, elle était en colère.